Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons aujourd'hui le docteur Dominique Desmichel et moi-même pour parler du mythe mais aussi du conte. En effet, du mythe au conte, le rapport de ces deux moyens d'expression, voilà le sujet qui nous intéresse, le docteur Dominique Desmichel et moi-même. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, nous avons vu dans une précédente émission les origines du mythe, les origines du conte. Nous avons vu qu'il y avait bien sûr une différence d'échelle entre les mythes qui proposaient des histoires sur les grandes questions existentielles de l'humanité et les contes, des rapports entre les humains, des histoires de famille, des histoires...
Oui, moi je suis d'accord avec vous. En même temps, quand on regarde dans la mythologie, on s'aperçoit quand même que c'est aussi beaucoup une histoire de famille.
Mais oui, hein, les dieux grecs, ils n'arrêtent pas de se marier entre eux.
Exactement, et puis Zeus, il n'arrête pas de découcher. Voilà, Héra, ouais. Elle est absolument... elle ne supporte pas. Hein, et voilà. Par exemple, Héraclès, hein, qui est le nom grec de Hercule. Hein. Héraclès, ça veut dire celui qui est l'objet de Héra, au fond, hein, c'est-à-dire Héra qui est l'épouse légitime de Zeus. Zeus, il découche partout, il a des demi-dieux ou des voilà un petit peu partout, et donc c'est aussi quand même des histoires de famille, hein. Voilà. Alors c'est vrai que dans les contes, dans les mythes, il y a ces grandes questions sur l'origine du monde, l'origine de la guerre, l'origine, la différence des sexes, la différenciation de chacun, l'individuation, tout ce processus-là. Les récits des contes sont beaucoup plus centrés sur un noyau familial, c'est-à-dire ceux qui se jouent à l'intérieur des relations entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs, c'est-à-dire où, au fond, dans l'âme humaine, par rapport à la transmission, par rapport aux figures masculines, par rapport aux figures féminines.
Oui, d'ailleurs, ce qui rend parfois les contes, parfois même presque plus obscurs que les mythes, hein. C'est-à-dire qu'on peut souvent avoir des surprises, on a l'impression que ça raconte pas grand-chose, et puis quand on creuse, on a souvent des surprises dans les contes. Hein.
Ah, moi, je crois que les mythes sont plus faciles à lire que les contes.
Oui, c'est ça, ouais, effectivement.
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que le mythe, il est clair, il a une vraie pédagogie, on sait comment ça se termine, il y a une sorte de fatalité, parce que le héros, il est soumis à son destin, il n'a pas la possibilité de s'en sortir. Dans le conte, on a l'impression que c'est une petite histoire légère, qu'on comprend bien pourquoi le loup est méchant, pourquoi la petite fille est toute seule dans la forêt, pourquoi le frère et la sœur se disputent, ou au contraire, ils grignotent un petit peu de la maison dans Allègretel, par exemple. On comprend un petit peu tout ça. On se laisse porter. Probablement, ça nous habite et ça vient nous nourrir. Mais dès qu'on plonge en profondeur dans la signification du texte, on s'aperçoit que c'est une complexité absolument incroyable.
Oui, effectivement. Alors, prenons un petit peu dans le détail le déroulement du mythe et le déroulement du conte. Alors, d'abord, les grands sujets qui sont abordés dans les mythes. Alors, on peut en citer quelques-uns. Le lien de l'homme et de la femme.
Voilà, je pense que si on reprend les grandes histoires que tout le monde connaît un petit peu, on peut vraiment s'apercevoir que chaque sujet traite, dans une certaine mesure, d'une thématique particulière. On pourrait d'abord prendre l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée. Bon, l'Iliade, c'est pas vraiment un texte très très passionnant, il y a beaucoup de batailles, beaucoup de morts et beaucoup de sang. Mais l'Odyssée est un récit extrêmement, extrêmement important, extrêmement riche, un très beau texte, un très beau poème. Et on s'aperçoit au fond que c'est l'histoire d'un homme qui a retrouvé sa propre identité et a retrouvé sa terre natale et qui a retrouvé sa moitié, en l'occurrence Pénélope. Et donc, ce texte-là, hein, donc Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est probablement le premier grand texte philosophique, hein, parce que c'est un texte d'une très très grande profondeur. Et il vient donc raconter peut-être la quête existentielle de tout humain. En particulier, on pourrait dire que dans la rencontre d'Ulysse et de Calypso, il y a une interrogation autour du sens de la vie et du sens de la mort. Parce que Calypso est extraordinairement amoureuse d'Ulysse, elle a envie de le garder, elle lui a fait oublier sa quête personnelle, mais Ulysse, tous les soirs, il va sur le rivage et puis il repense à quelque chose qui lui manque. Et Circé, très amoureuse, va lui proposer et l'immortalité et l'éternelle jeunesse, et on voit que Ulysse va faire le choix d'une vie pleinement réussie et assumée, et donc il assume sa condition de mortel. Donc il va quitter Circé, la déesse Circé, et il va retourner à Ithaque. Donc vous voyez, il y a vraiment une quête philosophique qui est tout à fait importante.
Alors les mythes parlent aussi des origines. Les origines des dieux, les origines, pourquoi pas, d'une montagne ou d'un...
Oui.
De l'océan, ça parle de ça.
Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Alors cet élément-là, on pourrait le retrouver dans les contes aussi. Il y a certains contes qui parlent pourquoi la mer est salée, pourquoi... Alors oui. Ce sont des contes qui seraient un petit peu à cheval entre les deux, quoi.
Oui, c'est probable. Peut-être ce sont des contes que j'ai moins lus ou moins travaillés, ouais, mais... Ouais. Oui, vous avez raison. Il ne faut pas non plus confondre le conte avec la fable. Hein, oui. Parce que de temps en temps, il y a un petit récit qui est fait pour illustrer. Hein. Un des éléments qui est important, enfin l'idée me vient, on est comme ça, c'est le mythe de Gigès. C'est un mythe que Platon raconte dans La République, il me semble. Et il raconte, vous allez voir que l'histoire, elle est très très vieille, hein, 3 siècles avant Jésus-Christ, mais qu'elle est extrêmement contemporaine avec les livres et films récent là, c'est l'histoire d'un berger, il me semble, qui un soir d'orage voit une espèce de grande faille dans la terre qui s'ouvre. Il descend, là il trouve un cadavre. Au doigt de ce cadavre il y a un anneau. Il enlève l'anneau et en fait il s'aperçoit que quand il met cet anneau et qu'il le tourne d'une certaine manière, il devient invisible. Bon, alors vous voyez bien,
tout le monde voit le rapport. Oui,
voilà, ça a donné en effet le Seigneur des Anneaux et toute la question de cette puissance. Et là, il me semble qu'on peut pas dire que c'est un mythe, même si c'est présenté souvent avec cette appellation. On peut pas dire non plus que c'est un conte, c'est une petite fable qui... Alors, il lui arrive quoi à ce berger-là? Ben en fait, il en profite, quand il est invisible, il va séduire et puis violer la femme du roi, il tue le roi, il prend sa place, voilà. Et en fait, Platon, il vient dire que, au fond, si on n'avait pas les garde-fous extérieurs, si on n'avait pas le regard, si on n'avait pas la loi extérieure, on n'intérioriserait pas probablement cette loi et peut-être on ferait n'importe quoi. Mais c'est pas une puissance, ça n'a pas la puissance des mythes. Hein. Et par rapport à ce que vous disiez, en effet, dans les mythes de la création, les théogonies qu'on voit essentiellement dans le texte d'Hésiode, il s'agit de se dire comment la terre a été créée, comment le ciel a été créé et comment le ciel a été rempli des dieux, comment ils sont apparus et puis comment ils ont fait un petit peu des guerres aussi, ou en tout cas le père avait envie de garder le pouvoir et de garder sa femme, donc les enfants, c'était pénible, et il n'avait pas envie d'enfants. Et d'ailleurs, l'enfant vient dire l'écoulement du temps, et comme les dieux sont immortels, ça n'a pas de sens qu'il y ait des enfants, puisque les enfants, c'est ceux qui remplacent les parents. Hein. Voilà, et on retrouve par exemple un texte tout à fait intéressant dans une... On s'éloigne un tout petit peu, mais je dis comme ça me vient, hein, c'est-à-dire d'une lecture, après on pourrait dire plus philosophique, du mythe, qui vient expliquer quelque chose beaucoup plus en profondeur. Hein. Et il y a un texte de Cicéron qui explique en particulier comment le dieu Chronos, C-R-O-N-O-S, vous savez, Chronos, c'est celui qui mange ses enfants. Hein, il y a une peinture au Prado qui est tout à fait célèbre là-dessus, de cette histoire-là. Combien, au fond, ce Chronos qui mange ses enfants va se transformer en Chronos avec un H, c'est-à-dire le temps. Hein, c'est-à-dire le fait que nous soyons nouveau-nés, puis adultes, comme ça, c'est l'histoire que le temps finalement nous mange. Hein. Donc vous voyez, il y a une réflexion dans les mythes sur le temps qui passe, la mort qui arrive, mais pourquoi on vieillit? On pourrait naître, je sais pas, à 30 ans ou à 40 ans, et puis ensuite qu'on reste comme ça de manière éternelle. Non, il y a une réflexion sur le fond.
Alors un autre sujet abordé par les mythes, ce sont les conflits, forcément, entre le bien et le mal, entre les forces apolliniennes, nous diriez-vous, et les forces dionysiaques.
Oui.
Alors dans les contes, là, pour le coup, on est aussi sur la perte d'un équilibre entre le bien et le mal qui est retrouvé théoriquement à la fin.
Tout à fait, tout à fait. Dans les mythes grecs, il y a en effet toujours cette tension entre les forces apolliniennes, c'est-à-dire juste, claire, on pourrait dire solaire, diurne, hein, et puis les forces dionysiaques qui sont les forces du pouvoir, de la violence, de l'excès, de l'alcool, de la sexualité, des perversions, tout ça. Et d'ailleurs, on peut toujours se poser la question, et pourquoi donc il a fallu que Dionysos, qui est ce dieu quand même absolument insupportable, infréquentable, pourquoi il est au cœur de l'Olympe, hein? Vous voyez, c'est une grande question philosophique. Qu'on pourrait dire être aussi un peu la même question, mais pourquoi le mal existe si le mal n'existait pas? Voilà, donc ça vient poser la question. On retrouve ce même questionnement d'ailleurs dans le récit biblique, hein, c'est-à-dire pourquoi, voilà, est-ce que Dieu a autorisé le mal? Quel est le sens du mal? Et en particulier le rapport à la liberté, hein, c'est-à-dire le prix de la liberté, c'est la possibilité de pouvoir faire le mal, hein, par exemple.
Alors est-ce qu'on peut dire que les contes sont une recherche d'équilibre entre les deux?
Oui, je crois que c'est, mais c'est une recherche d'équilibre ou de justesse.
De justesse, hein,
de justesse, sûr, ouais, dans les relations. Hein.
Si, on ne va pas vaincre le bien, on ne va pas vaincre le mal, mais on va essayer de trouver un compromis entre les deux pour essayer de vivre, de passer entre les gouttes peut-être.
C'est beaucoup, oui, mais c'est beaucoup un message qui est destiné aux enfants, et pas aux enfants dans le sens où les contes, c'est une histoire pour les enfants. C'est une histoire qui est là pour dire à celui qui a vécu sous le joug, par exemple, de parents ou de frères ou de sœurs qui n'ont pas été dans une relation juste, une relation d'amour avec eux, pour leur dire « mais tu peux t'en sortir », vous voyez. Et c'est d'ailleurs une des deux grandes différences qu'il y a entre le mythe et le conte, c'est-à-dire le mythe est pratiquement toujours tragique parce que le héros mythique, il est soumis à son fatum, il est soumis à son destin et il ne peut pas s'en sortir. Tandis que le conte, il raconte exactement la même chose, c'est-à-dire il dit « t'as pu avoir un père qui est un ogre, t'as pu avoir une mère qui est une sorcière, t'as pu avoir un père qui est un ogre et une mère qui est une sorcière », c'est-à-dire être dans quelque chose d'extrêmement, extrêmement tragique, tu dois pouvoir t'en sortir.
Et les dernières minutes du conte retournent la situation.
Voilà.
Écoutez, Radio Grand Ciel, et nous sommes avec le docteur Dominique Desmichel et moi-même en train de parler des mythes et des contes et du rapport entre les deux. Et nous étions en train de voir les grands sujets abordés par le mythe. Nous avons pu voir la naissance des dieux, le combat entre le chaos et l'ordre. Que pourrait-on en dire de plus, docteur Dominique Desmichel? Il y a la quête du bonheur, par exemple.
Oui, il y a la quête du bonheur, il y a la quête de la justice. Hein, la quête du bonheur, on voit ça dans Thésée, par exemple, hein, qui est un personnage tout à fait central. Et puis, Thésée, c'est peut-être un des rares mythes, un des rares héros grecs, qui finalement, pendant une, pas tout à fait à la fin de sa vie, mais pendant une bonne période de sa vie, a pu être heureux, ce qui n'est pas très fréquent. Hein. Héraclès, c'est Hercule. Hein. Hercule, c'est une galère pas possible. Hein. Hercule, on en a fait une espèce de héros super sympa et tout ça, mais il galère toute sa vie, il n'arrête pas de faire des bêtises, il casse tout, il est violent, il tue ses enfants, il tue les autres sans le faire exprès. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait terrible. Et sa fin est absolument, absolument, absolument atroce. Mais il est quand même divinisé à la fin, hein, voilà, appelé à l'Olympe. J'ai un peu envie de revenir sur une histoire que la majorité d'entre nous connaissons, c'est l'histoire d'Œdipe et d'Antigone. Hein. Alors c'est très important de se rappeler du mythe que Sophocle raconte dans ces trois pièces, et parce que ça vient faire, et il y a un lien là avec le conte, ça vient raconter l'histoire d'une famille. Ouais, c'est voilà, la famille des Laptacides, et avec une espèce de malédiction. Hein. Une malédiction qui remonte à très très loin, puisque d'ailleurs, il y a un grand-oncle qui s'appelle Dionysos, là d'ailleurs, là-dedans. Il faudrait reprendre toute la généalogie, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais juste, vous connaissez l'histoire, c'est essentiellement Laios qui va apprendre qu'il peut avoir un fils, mais que ce fils va le tuer et va épouser sa mère. Alors Laios est un personnage qui est plutôt un personnage relativement sombre, et parce que en fait il a séduit Chrysippe, qui est le fils d'un autre roi, d'un autre pays voisin, et il l'a donc violé, pour dire les choses, et dans cette position-là, il y a quelque chose de son destin qui va le rattraper. Et on entend déjà combien il y a quelque chose de tragique dans cette position. Voilà. Et puis, Œdipe, dans l'histoire qui ne fait aucune faute, hein. D'ailleurs, ce n'est pas l'enjeu de la pièce de Sophocle. L'enjeu de la pièce de Sophocle, c'est plutôt de se dire quelle liberté on a par rapport à son propre destin. Hein. Voilà. Et alors, dans cette pièce-là, on peut prendre l'histoire d'après, qui est l'histoire d'Antigone, hein, et vous savez l'histoire du conflit entre les deux, hein, c'est-à-dire il y a Créon qui est l'oncle là, hein, c'est-à-dire le frère de Jocaste. Jocaste, c'est la mère d'Œdipe, hein, et puis enfin des quatre enfants. Un des deux frères, il y a deux frères, et il y en a un qui a commis une faute par rapport à la cité, et donc il ne peut pas être enterré. Et Antigone, elle va dire « je vais enterrer mon frère ». Et Créon, qui est le roi de la cité, dit « on ne peut pas enterrer ton frère ». Et donc vous voyez, là aussi, il y a une histoire de tension entre la loi qui pourrait être de dire la loi avec un grand L, qui est la loi du roi, la loi du chef, la loi du pays, et puis une autre tension qui est la loi du cœur, qui est la loi d'Antigone. Voilà. Et elle va enterrer son frère au prix de sa vie, et puis elle va perdre en plus son amant, oui. Et puis tout le monde va mourir.
Alors là, on parlait des héros mythiques, alors dans les héros du conte, du coup, on a l'impression que ce sont des personnages plutôt faibles, qui vont se révéler, justement, le plus petit va se révéler le plus fort, c'est souvent le dernier de la famille qui est le héros, ou alors l'orphelin, ou la petite fillette perdue dans la forêt.
Voilà, ou le cadet.
Ou le cadet.
Le cadet, ce qui est souvent le dernier, hein. Je rappelle souvent l'expression quand on dit « c'est le cadet de mes soucis », normalement ça veut dire « c'est le deuxième de mes soucis », mais ça veut dire « c'est le dernier de mes soucis », donc c'est en effet un personnage faible, qui va restaurer toute la situation, ou familiale, hein, par exemple le petit poussé, tout le monde meurt de faim, et puis les parents sont en dessous de tout, on pourrait dire, ils ont peut-être des raisons, mais en tout cas ils sont en dessous de tout, ils n'assurent pas leur don, et c'est pas souvent qu'un don de nourriture, c'est aussi un don d'amour, et le petit poussé va réussir à sauver tout le monde, à sauver ses frères et sœurs, et souvent à sauver les parents aussi, hein, qui peuvent être restaurés dans leur dignité, dans leur capacité à redonner de l'amour.
Indice supplémentaire, selon vous, que les contes étaient faits pour les petites gens, donc ils avaient besoin de se donner l'espoir que même en étant des petites gens, on pouvait arriver à quelque chose, tandis que les mythes étaient réservés à une élite, en tout cas écrits par une élite, peut-être pour une élite également, vu qu'on a vu qu'ils abordaient des grandes questions philosophiques, parfois très complexes.
Oui, peut-être. Je pense que j'ai pas assez de connaissances pour répondre à cette question-là. J'ai assez tendance à penser, moi, que l'émergence de grands récits ou d'une modalité particulière du récit, que ce soit une forme de roman, que ce soit un style de pièce de théâtre, Je pense que c'est vrai aussi dans la poésie, c'est probablement vrai dans le cinéma. L'émergence d'un style particulier tient compte de l'histoire du temps, hein, c'est-à-dire à telle époque va apparaître telle particularité, mettons dans la littérature, parce qu'il se passe ça dans le fond. Hein. Donc on peut par exemple se poser la question de savoir si l'émergence des contes n'est pas liée à une période particulièrement difficile, par exemple du XIVe siècle. Hein, vous voyez, hein, la grande peste noire en France et en Europe qui va tuer énormément de gens. On voit la modification extrêmement fondamentale des figures du Christ, par exemple. Hein. Avant ça, ce sont des figures solaires. Après, ça va être des figures extrêmement sombres. Donc, par rapport à une ambiance très sombre, l'inconscient collectif génère un récit, une multitude de récits qui est là pour témoigner des forces de vie inconscientes en particulier, mais qui vont se mettre en scène sous la forme de contes.
Alors dans les contes, on retrouve des animaux qui parlent, par exemple. Ça, on le retrouve dans les mythes aussi. Il y a pas mal d'animaux qui ont des pouvoirs ou des métamorphoses.
Typhon et Echidna, voilà, par exemple, hein, qui représentent des forces telluriques extrêmement, extrêmement sombres qu'on retrouve partout dans les mythes, dans les travaux d'Hercule, mais dans des tas d'autres situations pour Thésée, pour Jason.
Voilà. C'est pas, on sent tout de suite que c'est pas tout à fait les mêmes, que c'est pas tout à fait les mêmes animaux. Il n'y a pas beaucoup de loups dans les mythes, par exemple.
Non, on en trouve un, par exemple, dans Lycaon ou Lycan, hein, par exemple. Ouais. Hein, c'est un moment. C'est d'ailleurs la première mise en scène du loup-garou. Hein,
d'accord.
Hein, Lycan ou Lycaon, ça dépend comment on prononce. Ça s'écrit à l'Y, c'est A-O-N. C'est un personnage. En fait, Zeus, si ma mémoire est bonne, Zeus descend sur Terre pour voir un petit peu faire un état des lieux. Et puis, c'est absolument tragique. Et ce roi-là, qui ne comprend pas que c'est Zeus, il fait comme avec Pélops, c'est un autre. Il lui offre à manger de la chair humaine. Et le dieu Zeus s'en rend compte et il va transformer ce personnage en loup-garou. Voilà, hein, donc vous voyez, l'histoire du loup-garou, c'est vieux puisque ça date.
Qui tirait son origine donc
d'un mythe grec. Ouais.
Alors dans les contes, il y a aussi souvent des objets.
Alors pour revenir sur les petits personnages aussi.
Alors, les petits personnages.
Les animaux dont vous parliez. Oui. Les animaux sont très importants à un double titre. Premièrement, parce que c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup, et de temps en temps, c'est le pauvre petit dernier de la famille qui est perdu, qui va rencontrer un petit poisson qui est sur le bord de la rivière. Il a sauté, et puis il est tombé, et alors il remet le poisson dans la rivière. Et le poisson lui dit « Ah, je te remercie de m'avoir remis dans la rivière, parce que je suis le roi des poissons. Si jamais tu as besoin de moi, il suffira que tu prononces mon nom. » Voilà. Ça, c'est sur le plan factuel, sur le plan du récit. Et sur le plan symbolique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le petit dernier, là, le faible, tel que vous l'évoquiez, il est invité à aller chercher à l'intérieur de lui-même des puissances archaïques, des puissances que nous, on appelle archétypiques, en profondeur. C'est-à-dire son petit poisson ou son petit gnome ou son petit nain ou son petit elfe, voilà, qui va venir l'aider. Hein. Donc il y a cette double dimension. C'est pour ça qu'on retrouve ces animaux-là.
Alors, quelques mots sur les objets pour terminer cette seconde partie de l'émission. Dans les contes, bien sûr, donc comme on le disait, il y a l'aiguille, il y a le rouet, il y a... dans les mythes, il y a bien des épées mythiques, des armes magnifiques, des chars qui volent, non?
Oui, bien sûr. On retrouve les animaux, comme avec Pégase, par exemple, aussi, qui est sorti du coup de la Méduse.
Mais vous allez me dire que ces objets n'ont pas le même rôle.
Ils ont une fonction, en tout cas dans les contes, ils ont une fonction symbolique. Pour reprendre une histoire connue, hein, parce que je trouve que ça aide bien quand on parle d'histoire connue, c'est l'histoire de la Belle au Bois Dormant. Et la Belle au Bois Dormant, ses parents ont appris qu'un jour elle allait se piquer un rouet, c'est-à-dire en gros on va dire une aiguille à tricoter, une aiguille à coudre, peu importe, et qu'elle allait en mourir. Alors ils font supprimer tous les rouets du royaume, évidemment, comme d'habitude, il va en rester un, et puis elle va le trouver, et puis voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que un jour, la petite fille, elle saigne. C'est quoi? Elle a ses premières règles, voilà. Et donc ici, l'objet ne sert qu'à mettre en scène de manière symbolique, de manière allégorique, de manière décalée, quelque chose que probablement toutes les filles de l'époque vont bien comprendre. Hein, parce que un jour, elles ont aidé leur mère, elle s'est piquée. « Oh maman, regarde, j'ai une goutte de sang. » « Ah, tu sais, ma fille, un peu plus tard, ça ne sera pas une goutte de sang. Hein. Quand tu seras un petit peu plus grande et que tu auras 11 ans, 12 ans ou 13 ans, eh ben, tu auras, comme ta mère et comme moi, ta grand-mère, et trois petits points. » Voilà, donc ces objets servent à mettre en scène une problématique.
Du mythe au conte, voilà le sujet qui nous préoccupe le docteur Dominique Desmichel et moi-même. Docteur Dominique Desmichel, nous allons aborder cette dernière partie de l'émission avec moi un thème qui me tient à cœur. Vous êtes psychanalyste, quel est le rapport entre la psychanalyse et les mythes et ensuite le rapport entre la psychanalyse et les contes? Alors pour les mythes.
Je pense que la problématique est en fait la même, c'est-à-dire que... on est juste dans une histoire d'échelle, c'est-à-dire que tous ces récits, et peut-être tous les récits de l'univers, hein, dans le sens où on pourrait dire que le conte, c'est l'archétype du roman, hein, on pourrait dire, voilà. Et peut-être que le mythe, c'est l'archétype du grand roman historique, hein, que tout ça, ça raconte les rapports de l'homme avec son voisin ou sa voisine, ça raconte les rapports de l'homme dans le sens de l'humain avec lui-même, et ça vient dire ce qui se passe à l'intérieur de son psychisme. Alors, il ne s'agit pas de dire que toute l'histoire de l'humanité se réduit plus exactement à ce qui se passe dans notre tête, mais que l'essentiel quand même des relations que l'on a avec nos proches est déterminé par ce que nous avons vécu quand nous étions enfants avec notre papa, avec notre maman, avec nos frères, avec nos sœurs, et que ça va structurer notre relation au monde. Les mythes, de manière cosmique, avec les grandes questions autour de la vie et de la mort. Les contes, avec les grandes questions autour des relations parents-enfants, des relations frères-sœurs, et des relations aux grands âges de la vie, les grandes mutations de la vie, nous racontent, au fond, l'histoire de ce qui se joue à l'intérieur de notre psychisme.
Et c'est aussi, si je ne m'abuse, le lien qui nous relie à nos ancêtres par ces histoires qui sont transmises de génération en génération. Ça crée un lien dans toute l'humanité et dans le temps également. Ouais.
Moi, je crois qu'une fois on en avait parlé hors micro, je pense que mon lien particulier au conte, c'est un de mes grands-pères, mon grand-père paternel, qui, quand j'étais petit, me racontait des histoires, en particulier la petite lumière bleue. Et quand on allait l'été passer les vacances chez mes grands-parents, on attendait toujours ce récit-là, qu'on connaissait par cœur, mais qui était toujours nouveau à la fois, parce que comme tout conteur, il rajoutait des petites choses en fonction des situations. Hein. Donc là, en effet, dans les mythes, il y a quelque chose de l'histoire de l'humanité qui se transmet de génération en génération, et dans les contes, il y a l'histoire de la psyché plus individuelle ou intrafamiliale ou des relations interpersonnelles qui se racontent là aussi de génération en génération, avec ce savoir qui s'accumule et avec ce savoir surtout qui se met en scène à travers un récit.
Eh bien, c'est sur ces mots que se termine notre émission. Un grand merci, docteur Dominique Desmichel, et puis je vous dis à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Merci, au revoir.